When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bonjour à toi, chère auditrice, et bienvenue dans la saison 2 du podcast Parents informés. Moi, c'est Charline, la créatrice de ce podcast, dans lequel je te propose de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance, sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. En effet, pour chaque thème abordé, je cherche l'intervenant le plus adapté pour lui poser des questions que l'on se pose souvent en tant que parent, et je viens ici les partager avec toi. Un nouvel épisode est publié le mercredi toutes les deux semaines, et pour être tenu informé, tu peux t'abonner à la newsletter en m'envoyant un email à parentsinformés@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, parle-en autour de toi pour le faire connaître à tes amis ou à ta famille. La communauté Patreon du podcast permet de le soutenir financièrement en accédant à des contenus exclusifs et notamment des fiches résumées de chaque épisode. Si tu as envie de rejoindre cette communauté, tu peux t'abonner pour quelques euros par mois sur le site www.patreon.fr. Je te mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Pour ce 46e épisode, je reçois Pauline Benaroche, qui est diététicienne nutritionniste spécialisée dans l'accompagnement des femmes enceintes et des jeunes mamans. Lorsque l'on tombe enceinte, l'alimentation devient un point central. D'abord parce qu'il y a des restrictions alimentaires à respecter, Pauline nous rappelle lesquelles. Ensuite parce que nos goûts peuvent évoluer avec les hormones, on peut avoir des nausées ou des fringales. Bref, on se pose plein de nouvelles questions et on fait le point dans cet épisode sur toutes ces questions. Enfin, l'équilibre alimentaire est primordial pour être en forme pendant la grossesse, mais aussi pour récupérer après l'accouchement. Or, on ne va pas se mentir, une fois que bébé sera là, l'alimentation ne sera pas votre préoccupation première. Et c'est pour cela qu'il est préférable d'anticiper lorsque cela est possible. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté de participer au podcast.
Avec plaisir.
Avec toi, on va parler de diététique pendant la grossesse et pendant le postpartum. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous présenter qui tu es et quel est ton métier, s'il te plaît ?
Oui. Donc, je m'appelle Pauline. Je suis diététicienne nutritionniste et j'accompagne les futures et les jeunes mamans à prendre confiance en elles et en leur alimentation. Et bientôt aussi, j'accompagne les couples à optimiser leur fertilité pour... multiplier les chances de concevoir un joli bébé.
On peut faire ça avec l'alimentation ou ça passe par d'autres choses ?
Alors, l'alimentation est évidemment hyper importante. Il n'y a pas que l'alimentation, évidemment. Il y a tout le mode de vie aussi qui englobe la vie des gens, l'activité physique, le stress, le sommeil, tout ça. Mais c'est vrai que l'alimentation est un gros point de la qualité de vie des gens.
Justement, quand on parle de fertilité et de démarche pour tomber enceinte, est-ce qu'à ce moment-là, on va dire qu'on parle du cas d'une femme qui a une alimentation à peu près équilibrée et normale dans sa vie de tous les jours ? On ne va pas parler des extrêmes et des problématiques de santé, on parle du cas général aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quand même des aliments qu'on n'a pas l'habitude de manger qui sont intéressants de rajouter quand on est en phase de conception ?
Alors, je dirais un bon focus sur. Alors, déjà, veiller à avoir une alimentation variée, la plus variée possible, c'est important de ne pas se focaliser que sur un type d'aliment. Donc, les aliments que je vais citer, ce n'est pas exclusivement ces aliments qu'il faut apporter, mais c'est des aliments que je me rends compte qui ne sont pas forcément dans les habitudes des gens et qui serait bien de veiller à apporter à ces moments-là. Idéalement aussi, l'alimentation devrait être la plus naturelle possible, la moins transformée possible, la plus bio possible pour éviter tout ce qui est perturbateurs endocriniens, antibiotiques, tout ça. Et donc ça, c'est les bases d'une bonne alimentation variée et naturelle. Et si en plus, on peut veiller à apporter des bons gras, donc des oméga-3 qui sont contenus notamment dans les petits poissons gras comme les sardines, les maquereaux et tout ça. Ça, c'est assez... assez bien. Et puis pour le. Enfin, ça, c'est vraiment. Et des oléagineux aussi, je dirais. Les oléagineux, c'est vraiment top pour la fertilité, la grossesse et même le postpartum. Mais c'est vrai que je me rends compte que les petits poissons gras, ils ne sont pas assez présents dans notre alimentation.
Clairement, dans la mienne, pas du tout. Je m'en rends compte quand tu le dis. Pas du tout. Qu'est-ce que tu mets dans les oléagineux?
Je mets amandes, noix, noisettes, noix de pécan, noix de cajou, les graines aussi, graines de courge, graines de tournesol, graines de sésame, c'est hyper intéressant.
Ils ont à peu près tous les mêmes propriétés ?
Grosso modo, oui, ils sont tous sources de bons gras, mais c'est vrai que la noix est plus riche en oméga-3, les cacahuètes sont très riches en protéines, et les amandes aussi. Mais globalement, elles sont assez, elles sont toutes très intéressantes. Si on les consomme pas salées et nature, quoi, ou grillées à la limite.
D'accord, donc on prend pas des amandes salées grillées ou des cacahuètes de l'apéro, quoi.
Ou les chouchous, là, les cacahuètes.
Voilà, c'est très très bon, mais pas du tout bien nutritionnellement. Ça marche. Est-ce qu'en termes de quantité, quand on commence à être enceinte, c'est une question qui revient beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait des quantités? Est-ce qu'on continue de manger de la même manière? Est-ce qu'il faut manger plus, manger moins?
Alors, je dirais, pendant la première moitié de la grossesse, il n'y a pas forcément besoin de manger plus, mais... je pense que c'est important de manger de meilleure qualité, ça c'est évident. Donc, il n'y a pas forcément de changement quantitatif à faire, mais vraiment qualitatif. J'aime bien prendre l'exemple les œufs. Donc les poulets qui sont élevés en batterie, qui se marchent dessus, qui ne voient pas la lumière du jour et qui mangent un peu n'importe quoi, versus un poulet qui court dans la basse-cour, qui mange des graines de lin qui sont très riches en oméga-3, qui se dépense, tout ça, clairement, la qualité d'un œuf sera complètement différente. Donc, c'est en ce sens que je dis il ne faut pas forcément changer la quantité, mais vraiment la qualité. Donc, opter pour du bio ou du label bleu blanc cœur ou des labels qui sont gages de qualité.
Ok. Est-ce que ça coûte forcément plus cher?
Alors, les œufs, ce n'est pas ce qu'il y a de plus cher. Je pense que oui, c'est quand même un petit budget en plus, mais pas, quand on s'y prend bien, je pense qu'on peut s'en sortir correctement. En allant chez les petits producteurs locaux notamment. Alors, c'est sûr que c'est un peu plus difficile quand on habite à Paris ou dans des grandes villes. Mais c'est vrai que si vous avez la possibilité de vous fournir chez les petits producteurs locaux, c'est l'idéal.
Ça marche. Quand on est enceinte, l'alimentation, c'est une des premières choses dont on nous parle parce qu'il y a aussi des aliments qui sont interdits. Est-ce que... Alors je ne sais même pas s'ils sont interdits ou s'ils sont non recommandés. Je ne sais pas comment c'est formulé. Mais est-ce que tu peux nous expliquer en tout cas quels sont les aliments qu'on n'est pas censé manger quand on est enceinte et surtout pourquoi ?
Ouais. Alors, il y a l'alcool déjà d'emblée qui est pour le coup interdit complètement parce qu'on ne connaît pas en fait le dosage à partir duquel il est toxique pour le fœtus. Et donc, par principe de précaution, on dit zéro alcool. Ensuite, il y a tout ce qui est aliments crus ou pas assez cuits, enfin, où le processus de fabrication ne les cuit pas suffisamment. Typiquement du saumon fumé qui n'est pas assez cuit, ou alors le saumon cru complètement, pour le coup, lui, il n'est pas du tout cuit. Parce que, alors, ces aliments-là, alors, il y a plusieurs causes. Il y a la toxoplasmose qu'on teste en général très rapidement pour savoir si on est immunisé. Donc, si vous êtes immunisé, tant mieux pour vous. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave. Il faut juste faire attention à quelques aliments. La toxoplasmose, c'est un parasite qui est véhiculé par les chats et les excréments des chats. Et donc, quand ils vont à la selle dans la terre et qu'après, il y a ce parasite se véhicule dans la terre et qu'après, il y a, par exemple, le bœuf qui mange la terre ou le poulet qui mange la terre ou ces autres animaux qui mangent la terre ou les légumes aussi qui sont en contact de la terre, ce parasite peut se déplacer vers ces hôtes, ces nouveaux hôtes, donc le bœuf ou les légumes. Et ce parasite est détruit à la chaleur. Donc, c'est pour ça qu'on recommande vivement de bien cuire les viandes, de bien laver les légumes pour se débarrasser de tout potentiel risque de parasite. Voilà. Et donc, l'autre parasite qui existe, c'est la listériose ou listeria. Et là, vous la retrouverez dans les produits... pas très frais, c'est un parasite qui se développe quand c'est pas très frais ou quand c'est pas quand c'est en contact de ce parasite. Donc le lait cru et tous les fromages au lait cru qui ne sont pas pasteurisés en fait. Donc eux, la pasteurisation détruit la listériose. Donc à partir du moment où c'est pasteurisé, il n'y a plus aucun risque. Et il y a donc tout ça sur les fromages, le poisson. Et tous les produits de charcuterie qui sont aussi à la découpe. Par contre, les fromages, par exemple, vous allez pouvoir voir du comté au lait cru ou de l'emmental au lait cru. Le processus de fabrication des fromages à pâte dure les fait chauffer suffisamment pour détruire la bactérie. Donc, même si c'est fait à base de lait cru, le produit final est normalement, sain de listeria.
D'accord, donc en fait, tous les fromages à pâte dure peuvent être consommés, c'est que les fromages à pâte molle, qui sont les crus, qui eux ne peuvent pas être consommés.
Exactement, qui doivent être pasteurisés. Et aussi, alors ça c'est la bonne nouvelle de la saison des raclettes, tartiflettes, tout ça, si c'est cuit, gratiné, tout ça, il n'y a aucun souci aussi, donc tartiflette au lait cru, elle passe tranquille.
On peut en abuser, cool.
Exactement. Pareil pour le saumon fumé, si c'est des pâtes au saumon fumé qu'on fait cuire bien avant, enfin on fait cuire le saumon fumé ou une quiche au saumon fumé, normalement c'est bien cuit aussi dans la quiche.
Ok, donc on oublie les sushis, mais par contre la tartiflette c'est bon.
Exactement.
Ça, c'est toute la grossesse. Il n'y a pas de premier, deuxième, troisième trimestre.
Non, toute la grossesse.
Ok. Par contre, est-ce que dès qu'on a accouché, on peut reprendre une alimentation normale ou est-ce qu'il y a un délai?
Ah, bien sûr. Même si on allaite.
Ok, donc ces deux catégories-là de parasites, ils concernent plus la femme dès qu'elle a accouché, quoi, quel que soit après son mode d'alimentation pour son bébé.
Exactement.
Ok. Et quand on est enceinte, il y a souvent... Alors, il y a parfois des nausées.
Ouais.
Qui durent le premier trimestre ou pas, et qui sont matinales ou pas. Est-ce qu'avec avec certains aliments, on peut limiter ce phénomène, ou en tout cas le contrecarrer? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous aider dans ces cas-là?
Ouais. Alors, il faut savoir que les nausées, en tout cas du premier trimestre, sont très, très hormonales. Et donc, parfois, ça marche super bien chez certaines personnes. Et parfois, ça ne marche pas du tout et c'est pas... c'est pas l'idéal, quoi. Enfin, c'est pas l'idéal, ça fonctionne pas, quoi. Donc, il y a le gingembre qui marche vraiment très, très bien. Donc, en infusion, ou surtout en infusion, ça marche plutôt bien. Le citron aussi, ça peut marcher, de sentir des huiles essentielles de citron qui sont vraiment pas du tout toxiques. Et tout ce qui est trop gras aussi peut augmenter les nausées. Tout ce qui est chaud aussi peut augmenter les nausées. En tout cas, elle peut les augmenter parce qu'en général, quand un plat est chaud, on sent plus l'odeur de ce plat. Et du coup, ça peut dégoûter plus rapidement qu'un plat soit à température ambiante, soit tiède ou voire froid. D'accord. Donc, évitez de manger trop, trop chaud pour développer les odeurs. Évitez de cuisiner si c'est ça qui vous met mal. Ce sera votre plus sain qui s'en occupe. Pour le coup, il vous doit bien ça. Fractionner son alimentation, c'est hyper important aussi. Ne pas rester le ventre vide parce que ça aggrave les nausées d'avoir le ventre vide, comme d'avoir trop mangé, ça aggrave aussi les nausées. Donc, des petits repas réguliers, ça peut vraiment aider à soulager. Si les nausées surviennent le matin, n'hésitez pas à avoir à côté de votre lit un petit snack à manger directement en sortant du lit, genre un petit cracker assez neutre, voilà, des choses neutres qui sont pas trop fort en goût, pour du coup commencer déjà à remplir un petit peu votre estomac. Voilà.
Ok. Quand on est enceinte, on a les goûts qui sont parfois modifiés. Et enfin, ouais. on a pas envie des mêmes choses que d'habitude, c'est un peu perturbant au début. Ça vient d'où? C'est hormonal?
Ça peut être hormonal, oui, bien sûr. Je pense que c'est hormonal. Il faut pas. C'est pas grave.
Faut pas lutter.
Non, faut pas lutter. Parce que ça risque d'être pire en fait en luttant. En général, ça revient soit au milieu de la, enfin pendant la grossesse, soit en accouchant. Il y a pas de souci. Et surtout, il faut pas culpabiliser parce que souvent au premier trimestre, en tout cas moi les femmes que je rencontre, et quand elles avaient des nausées, elles étaient souvent obligées, enfin pas obligées, mais elles s'orientaient que vers des aliments assez neutres et typiquement des féculents, genre pâtes, riz, enfin des trucs très très basiques. Parce que tout le reste les dégoûtait. Et donc, elle se disait, je dois manger équilibré. Au final, j'arrive à manger que des pâtes, c'est horrible, machin. C'est pas très grave. Le plus important, c'est de manger et d'avoir assez d'énergie pour lutter contre la fatigue et contre tout ce qui se passe dans votre corps. Donc, vous mangez ce que vous pouvez manger. Si vous arrivez à ajouter des légumes régulièrement, c'est d'autant mieux. Si ce n'est pas, le cas, ça reviendra au fur et à mesure. Mais n'hésitez pas à continuer de tester, quoi. Sans vous faire un plat énorme de brocoli parce que qui vous dégoûte, goûtez une petite fleurette de temps en temps parce que ça peut revenir.
Ok, ça marche. Quand on est enceinte, on a parfois aussi plus envie de manger tout le temps. Comment on gère ça et surtout, qu'est-ce qu'on peut manger entre les repas, j'allais dire, sans que ce soit une catastrophe d'un point de vue diététique?
Alors déjà, c'est pas grave de manger entre les repas. Vraiment, j'insiste sur ce fait-là parce que beaucoup de femmes que je rencontre, comme on leur a toujours dit, faut pas manger entre les repas, c'est pas bien tout ça, elles s'interdisent de manger entre les repas et elles mangent beaucoup trop au vrai repas. Et du coup, elles se sentent mal, elles ont faim, et ça tourne en boucle dans leur tête, j'ai faim. Et après, elles craquent sur ce qu'il y a de pire et sur ce qu'elles n'auraient pas du tout envisagé consommer avant. Donc vraiment, fractionner son alimentation, c'est un des meilleurs conseils que je puisse donner pendant la grossesse. Donc faire des collations régulièrement. Si vous prenez votre petit déjeuner tôt, vous pouvez faire une collation dans la matinée, ensuite vous mangez à midi, mais vous mangez ce que vous pouvez manger sans vous forcer, parce que vous savez que potentiellement à 15-16 heures, vous avez une autre collation, donc c'est pas grave si vous avez faim en plein milieu de l'après-midi, et pareil pour le déjeuner, voire une collation avant d'aller se coucher si c'est nécessaire, quoi. Vraiment, il n'y a aucun risque tant que la collation est équilibrée et que c'est pas la barre de sneakers du distributeur, quoi.
Du coup, on met quoi dans notre collation?
Alors, idéalement, un fruit ne se consomme pas seul pendant la grossesse parce qu'il y a tellement de variations de glycémie que même un fruit seul, ça risque de faire trop varier la glycémie. Donc, un fruit, vous pouvez l'accompagner d'oléagineux, par exemple. Comme je disais tout à l'heure, c'est hyper intéressant de les intégrer dans une collation. Ça peut être, je dis oléagineux, mais ça peut être aussi leur purée. Donc, ça peut être purée d'amandes, purée de cacahuètes. Vous coupez une pomme que vous trempez dans une purée d'amandes. Ça peut être très, très bien. Donc, ça peut être ça. Ça peut être un fruit avec un fromage blanc, par exemple. Ça peut être une tartine de pain avec un peu de beurre. Ça peut être l'après-midi, des crudités avec un peu de houmous, par exemple. Enfin, voilà, il y a plein d'idées qui ne sont pas du tout exhaustives et qui peuvent être très, très intéressantes.
Est-ce que l'idée, c'est d'éviter quand même ce qui est trop sucré?
Oui, bien sûr. Ou alors toujours l'associer d'oléagineux ou de fromage blanc, par exemple.
Et est-ce que les fruits crus ou en compote ou les deux?
Ah, c'est plus intéressant des fruits crus parce qu'il y a toutes les vitamines qui ne sont pas détruites à la chaleur, donc évidemment que c'est plus intéressant. Puis il y a aussi des fibres qui ne sont pas détruites par le mixage de la compote, mais ça peut dépanner une compote de temps en temps.
Ok, et au fur et à mesure de la grossesse, est-ce qu'il y a des aliments qui sont intéressants de manger pour préparer le corps à l'accouchement et au postpartum, ou est-ce que ça se fait vraiment sur le moment?
Non, évidemment que toute la grossesse permet de préparer l'accouchement et le postpartum. Une carence pendant la grossesse impactera forcément votre postpartum aussi. Typiquement, celle à laquelle je pense, c'est la carence en fer qui est très, très fréquente chez les femmes enceintes. Si elle n'est pas bien régulée avant d'accoucher, elle peut être augmentée parce qu'on a perdu beaucoup de sang pendant l'accouchement et donc augmenter la fatigue du postpartum qui est déjà bien présente.
Ok, et comment, par exemple, sur la carence en fer, est-ce que d'un point de vue alimentaire, on peut jouer sur certains aliments?
Alors, forcément, oui, parce que on retrouve du fer dans notre alimentation, mais en général, une carence en fer... l'alimentation ne suffit pas pour rééquilibrer le fer, donc la supplémentation vient forcément jouer un rôle là-dedans. Mais sinon, tout ce qui est viande rouge, c'est l'idéal. Alors souvent, les femmes que je vois, elles n'aiment pas manger de la viande rouge parce qu'elles détestent manger la viande trop cuite. Donc c'est un peu embêtant. Moi, ce que j'aime bien leur dire, c'est la viande hachée bien cuite en bolognaise ou des boulettes, ça passe un peu mieux et il y a quand même du fer.
Ok, et pour celles qui sont végétariennes, est-ce qu'il y a des choses à prendre dans l'alimentation pour compenser?
Alors déjà, si vous prenez des compléments alimentaires de fer, séparer de vos prises alimentaires de thé, par exemple, qui vient... Le thé, ça vient enfermer le fer et du coup, il est plus absorbé. Donc, il y a ça, les lentilles, il faut bien les tremper avant. Les lentilles sont assez riches en fer, il faut bien les tremper avant de les consommer et d'utiliser l'eau de trempage pour les cuire. Ça permet de conserver le fer et surtout de mieux l'absorber. Quand c'est du fer végétal, il faut surtout bien l'associer à de la vitamine C. Donc vous pouvez mettre un zeste de citron, un filet de citron sur votre salade de lentilles par exemple, ou du persil aussi.
Ok, donc est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur la grossesse, sur des aliments qui peuvent être intéressants?
Les oméga 3, encore une fois, les petits poissons gras, vraiment les besoins en oméga 3 sont vraiment très importants pendant la grossesse. Il y a des études qui montrent que ça préviendrait du risque de dépression du postpartum, donc bien veiller à avoir au moins un poisson gras par semaine. Et des huiles riches en oméga 3 aussi régulièrement, donc huile de lin, huile de cameline. Il y a aussi des mélanges d'huiles spéciales grossesse où il y a tout ce qu'il faut dedans qui sont intéressantes pour assaisonner les salades. C'est des huiles qui ne se cuisent pas et qui se conservent au frais, mais vraiment très intéressantes.
Ok, ça marche. Est-ce que alors, il me semblait avoir vu quelque part que on pouvait préparer sa flore intestinale pour l'accouchement, pour pouvoir ensuite la transmettre, puisque la flore se transmet au bébé au moment du passage dans un accouchement par voie basse. Est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer sa flore intestinale? Ou est-ce qu'on la laisse tranquille, elle est comme elle est et on fait avec?
Non, évidemment qu'il faut l'optimiser. C'est hyper important, le microbiote intestinal de la maman a un vrai impact sur le microbiote du bébé. Donc, évidemment qu'il faut l'avoir en tête et y travailler, mais c'est surtout le long de la grossesse et toute D'accord. l'assiette de la grossesse doit être riche en prébiotiques. Donc, les prébiotiques, ce sont les fibres qui nourrissent les bactéries des intestins. Et donc, ça, vous les retrouvez dans les céréales complètes, les fruits et légumes, dans les légumineuses aussi, donc lentilles, haricots rouges, haricots blancs, pois chiches, tout ça. Et quelque chose qui est assez intéressant qui s'appelle les amidons résistants, qui consiste à faire cuire des féculents. Donc ça peut être pommes de terre, ça marche très bien, céréales et légumineuses aussi. Donc vous les faites cuire, vous les faites refroidir pendant au moins 6 heures au réfrigérateur et vous les consommez soit froides, soit juste réchauffées. L'amidon se sera transformé et c'est un super prébiotique donc, pour équilibrer la flore intestinale. Donc ça, c'est intéressant d'en avoir régulièrement dans son alimentation pendant toute la grossesse.
D'accord. Ok, donc ce n'est pas juste sur la faim, c'est vraiment sur tous les 9 mois de grossesse que c'est intéressant de le faire.
Ouais.
Ok. Alors, une fois qu'on a accouché, on entend de plus en plus parler d'alimentation en postpartum. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est central dans le postpartum, l'alimentation ?
Alors, c'est central dans la vie tout court. Mais en postpartum, il faut savoir que l'alimentation, c'est quand même l'énergie de notre corps. Et donc, sans alimentation, c'est difficile d'être en forme. Comme je disais tout à l'heure, le postpartum, c'est très fatigant. Donc, quoi qu'il arrive, vous serez fatigué. Mais si en plus, il existe des carences ou vous ne mangez pas assez en postpartum, votre fatigue risque d'être largement accentuée. Et s'occuper d'un bébé quand on est épuisé physiquement, psychologiquement et nutritionnellement, c'est compliqué.
Ouais, on se rajoute une complication, quoi.
Exactement.
Et si tu avais des règles d'or à donner pour cette période, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Enfin, sur quoi on met le paquet ? Parce que clairement, en postpartum, on est déjà sous l'eau. Donc, c'est quoi la base de la base ?
Le plus important pour moi et le conseil que je donne à toutes les mamans que je suis, c'est d'absolument préparer son postpartum pendant votre congé maternité. Donc, préparation de petits plats que vous allez mettre au congélateur pour sortir rapidement, mettre au four pour réchauffer et basta, quoi. Vous n'avez rien à réfléchir, tout est déjà prêt. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut sauver un postpartum, je pense. En tout cas, l'alimentation en postpartum, parce que clairement, vous n'allez pas avoir le temps. Et puis, plutôt que de commander ou faire des pâtes tous les soirs, parce que c'est ce qui est plus rapide à faire, vous préparez en avance des petits plats maison, faciles à réchauffer, et vous demandez autour de vous de vous apporter à manger quand il y a des gens qui viennent vous rendre visite.
Ok, et qu'est-ce qu'on fait comme recette ? Est-ce qu'il y a des recettes qui sont plus faciles à manger quand on a un postpartum ? Ou est-ce qu'on fait ce qu'on a envie ?
Manger chaud, c'est réconfortant, c'est plus digeste, donc on peut manger chaud. Tout ce qui est mijoté à base de viande aussi, c'est pas mal parce que c'est plus digeste et il y a plein d'acides aminés qui permettent de réparer un peu les tissus qui sont abîmés. Le bouillon d'os, c'est l'idéal pendant la grossesse et en postpartum parce que c'est très riche en collagène. Le collagène, il vient aider à réparer les tissus aussi. C'est très riche en chondroïtine aussi qui est un super aliment pour, un super nutriment pour les intestins. Donc, le bouillon d'os, idéal. Et même hors grossesse, c'est des vraies cures de bien-être.
D'accord, je ne connais pas comment on fait ça.
Très, très facile. Tu prends la carcasse du poulet du dimanche midi, là, du poulet rôti. Tu la mets dans de l'eau. Tu ajoutes des légumes, des herbes, un peu ce que tu veux. Tu laisses mijoter le plus longtemps possible et puis tu récupères le bouillon.
D'accord, ok. Hyper simple.
Hyper simple.
C'est juste qu'il ne faut pas jeter la carcasse. Il faut y penser.
Exactement. Et parfois, si vous avez un boucher que vous aimez bien, tout ça, vous pouvez aussi aller chez votre boucher et lui demander de garder, de vous filer une carcasse parce que lui, il les jette, les carcasses, quand il vous vend les escalopes de poulet. Il s'est débarrassé de la carcasse et il peut vous donner les carcasses sans problème en général.
Ok. Quand tu fais un bouillon comme ça, les légumes, tu les récupères à la fin ?
En général, il n'y a pas grand-chose.
Ça, c'est tout décomposé ?
Bah, c'est très très cuit, donc il peut y avoir on peut garder par exemple les poireaux en cas de constipation, ça peut bien aider des poireaux cuits comme ça, mais d'un point de vue vitamines, minéraux, en général tout est dans le bouillon quoi, il n'y a plus rien dans le légume.
Ok. Le poireau, pour la constipation, c'est bien? C'est ça que tu dis? Ok. Parce que clairement, en postpartum, il y a aussi ça. C'est-à-dire que notre intestin à nous, il est quand même pas mal modifié et notre transit est pas mal modifié.
En fait, le corps a d'autres choses à faire que de gérer le transit. Donc, il va mettre le transit un peu sur pause, réparer tout ce qu'il faut réparer. Et puis, quand il aura le temps, il se remettra au transit. Donc, c'est pour ça que c'est encore plus intéressant de bien optimiser son microbiote pendant la grossesse. Parce que, avec un microbiote équilibré, on limite aussi déjà bien le risque de constipation. Bien boire, éviter de rester trop, trop immobile, donc bouger un petit peu. Et consommer des fibres.
D'accord. Ok. Quand on allaite, est-ce que ça change quelque chose dans l'alimentation qu'on doit avoir? Est-ce qu'il y a des aliments qui sont plus intéressants, pour la femme allaitante?
Alors, une maman qui allaite produira forcément le meilleur lait pour son bébé, peu importe ce qu'elle mange. Même si elle ne mange pas bien, elle produira un bon lait, mais si elle ne mange pas bien, elle risque d'être carencée et donc d'être trop fatiguée et donc de diminuer sa production de lait et donc enfin un cercle vicieux qu'on ne veut pas. Donc manger hyper équilibré toujours et varié, c'est hyper important. Alors, je dis hyper équilibré, il ne faut pas non plus devenir complètement borné, mais voilà, quand vous êtes chez vous, vous essayez le plus possible de manger équilibré. Si vous sortez au resto, vous faites plaisir évidemment. C'est hyper important. L'ocytocine a un vrai impact sur la lactation et si on ne se fait pas plaisir en mangeant, bah, ça impacte forcément aussi un peu l'ocytocine. Donc, se faire plaisir. Et encore une fois, les oméga-3, on ne le répète jamais assez.
Continuer à manger du poisson gras.
Exactement.
Ok. Est-ce qu'il y a des aliments qui, quand ils passent dans le lait, sont moins bien digérés par les bébés?
Alors, non, les études montrent que non, mais par contre, il y a des bébés qui seront plus sensibles à tel ou tel aliment. Donc, d'emblée, on ne peut pas dire ça, forcément, il va être pas bien ou ça, forcément, il va être pas bien. Mais vraiment, les parents doivent observer les comportements du bébé après l'allaitement, après certains repas qu'ils ont consommés, quoi.
Ok, d'accord. Je pensais que par exemple le chou-fleur, c'était un aliment.
Bah, non, il n'y a pas vraiment. En tout cas, la Leche League dit bien qu'il n'y a pas d'aliments à supprimer directement. C'est en fonction des intolérances du bébé qu'il faudrait supprimer ça. Et puis, si vous consommez de tout ça pendant votre grossesse aussi, ça prépare un petit peu le bébé à tout ça parce que le bébé boit le liquide amniotique en avance, qui a l'odeur de tout ça. Enfin, il y a tout plein de choses qui se préparent, quoi.
Ouais, donc finalement, en fait, le mieux, c'est d'avoir la même alimentation, enfin, à peu près la même alimentation pendant la grossesse et en postpartum, et presque dans la vie de tous les jours, du coup, une fois qu'on a pris les bonnes habitudes, on peut la garder après.
Exactement. Mais même pour toute la vie, hein, les bonnes habitudes que vous prenez pendant votre grossesse. Moi, c'est pour ça que j'aime bien prendre en charge les patientes pendant leur grossesse, c'est que ça permet de faire un peu le point sur leur alimentation et leurs connaissances nutritionnelles. Elles sont en train de créer une famille, elles vont devoir éduquer leur bébé au goût, à l'alimentation. Et donc, de faire un point sur tout ça en amont. Bah, je trouve que c'est d'utilité publique, quoi. Ça permet de faire des enfants qui mangent de tout, des enfants qui sont moins carencés, des enfants qui sont moins allergiques aussi, parce que forcément, ça a un impact, ce qu'on mange pendant la grossesse et même en préconception, ça a un vrai impact.
D'accord.
C'est pour moi hyper important.
D'accord, ok. Le fait de manger, de varier pendant la grossesse, ça a un impact sur les allergies derrière. Enfin, ça peut avoir un impact sur les allergies derrière.
Le fait de manger neutre, sans perturbateurs endocriniens, sans antibiotiques, de bonne qualité, varié, équilibré, évidemment que ça a un impact. Et de tout, des aliments prébiotiques, comme je disais tout à l'heure, forcément, le microbiote a un impact sur celui du bébé. Et on sait que le microbiote a un vrai rôle dans l'immunité. Et donc, on sait que les allergies sont une réaction un peu disproportionnée de notre système immunitaire. Et donc, ça a forcément un impact, ouais.
Ok, ça marche. Ben écoute, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Cet épisode touche à sa fin. Vous l'aurez compris, toutes ces bonnes habitudes alimentaires peuvent ensuite être conservées tout au long de la vie. Pour recevoir une fiche résumée sur toutes les informations nutritionnelles contenues dans cet épisode, vous pouvez vous abonner sur www.patreon.fr/parents informés. En complément de cet épisode, vous pouvez également écouter l'épisode 27 sur le quatrième trimestre, dans lequel on parle également d'alimentation en postpartum avec Amandine, qui est accompagnante en périnatalité. Pour retrouver les accompagnements proposés par Pauline, rendez-vous sur le site www.paulinebenaroche.com. Je vous mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés et sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne, afin qu'à leur tour, ils puissent en parler à d'autres parents. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes, classées par âge et par catégorie, sur le site internet www.parentsinformés.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.